Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Vous êtes sur Radio Spoutnik, ici Édouard Chano.
Et Marie Clarville.
Et voilà les titres d'aujourd'hui.
Nos collègues ne doivent plus devenir des cibles de la haine anti-police. Après l'attaque au cocktail Molotov de plusieurs policiers samedi à Viry-Châtillon dans l'Essonne, l'un est aujourd'hui dans un état critique, le syndicat majoritaire Alliance, police nationale, qui se dit ulcéré, appelait tous les policiers à s'en tenir au service minimum, exigeant du gouvernement, je cite, la mise en place d'un Grenelle de la sécurité par département. Nous nous penchons sur le sujet dans la suite de l'émission.
La mort d'une jeune érythréenne percutée par un camion alors qu'elle tentait de franchir la frontière franco-italienne à Vintimille a fait réagir les associations humanitaires présentes sur place. Ces dernières réclament l'ouverture de la frontière française, accusant les autorités de créer une nouvelle jungle du côté italien. Retour sur le cas de Vintimille dans quelques minutes.
Cet officiel, Vladimir Poutine, reporte sa visite à Paris. François Hollande et Jean-Marc Ayrault affichaient leur hésitation à recevoir le président russe après le 5e veto de son pays à la résolution française aux Nations Unies qui appelait à stopper les bombardements sur Alep. Cette non-visite aura beaucoup fait réagir les hommes politiques. Nous revenons sur leur déclaration dans quelques instants.
Malgré le rejet de la population colombienne de l'accord conclu entre le gouvernement et les FARC, la paix avance dans le pays. Le gouvernement colombien a en effet annoncé le début de négociations de paix officielles avec les guérilleros de l'armée de libération nationale, ou ELN, le 27 octobre prochain. Le ELN compte encore 1500 combattants contre environ 5765 pour les FARC. Des conversations secrètes ont été entamées depuis janvier 2014 avec les autorités colombiennes, peut-être encouragées par le dialogue mené publiquement à La Havane entre les FARC et le gouvernement. Depuis novembre 2012.
Nouvelle révélation de Wikileaks, nouveaux emails d'Hillary Clinton et cette fois-ci les responsables politiques parlent clairement du Qatar et de l'Arabie Saoudite comme soutien clandestin, je cite, financier et logistique à Daesh et d'autres groupes radicaux en Syrie et en Irak.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Samedi après-midi, à Viry-Châtillon, deux voitures de police étaient incendiées, blessant quatre agents de force de l'ordre.
Un adjoint de sécurité de 28 ans est aujourd'hui entre la vie et la mort au centre de traitement des brûlés de l'hôpital Saint-Louis de Paris.
Le carrefour où a eu lieu cette violente agression est connu de tous pour de nombreux faits violents.
Alors comment en est-on arrivé là? Le gouvernement a-t-il délaissé le maintien de l'ordre au profit de la lutte antiterroriste? On écoute Maxime Perrotin.
Quatre blessés, dont l'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort. Tel est le bilan de l'embuscade dont ont été victimes deux voitures de police samedi dernier à Viry-Châtillon, dans l'Essonne. C'est en plein après-midi, au carrefour de Fournil, dans le quartier de la Grande Borne, qu'une quinzaine d'individus cagoulés se jettent sur les deux véhicules, brisent leurs vitres et y jettent des cocktails Molotov. Les agresseurs pousseront la sauvagerie jusqu'à bloquer les portes pour empêcher les policiers de sortir de leur voiture en flammes. « J'ai vu qu'on voulait vraiment nous tuer », confie Sébastien au micro de RTL ce matin. Ce brigadier de 38 ans, affecté au commissariat de Juvisy, raconte comment les assaillants ont tenté jusqu'au bout d'empêcher les policiers de sortir des véhicules en feu. Il raconte comment, après être parvenu à s'extirper du brasier, il voit sa coéquipière, la tête ensanglantée, passer à côté de lui. Comment il voit, avant de venir en aide, l'un de ses collègues en train de brûler vif. Ce collègue qui brûle vif, c'est Vincent, 28 ans, dont le pronostic vital est aujourd'hui engagé, les poumons étant gravement touchés. Il a été plongé dans un coma artificiel. Une grève du visage sera certainement envisagée s'il s'en sort, a commenté l'un de ses collègues. Un drame qui survient alors que les policiers étaient en train de protéger une caméra de surveillance à un carrefour du quartier particulièrement réputé pour sa dangerosité. Les délinquants du quartier avaient en effet coutume d'y pratiquer le vol à la portière avec violence. Comme le rappelle le criminologue Xavier Hofer, ce n'était pas la première fois que la police était la cible d'une attaque à ce point particulièrement sensible.
Au mois de septembre encore, une voiture de police avait déjà été détruite. Ça n'est pas la première fois. Ces exactions se produisent sans que le gouvernement ne fasse grand-chose. Depuis le 5 septembre, où il y a eu la première attaque de policiers, et c'était pas la première fois, puisque la caméra a été installée en avril, la caméra gênante pour les dealers a été installée en avril 2015, et depuis lors, à de nombreuses reprises, les voyous en question ont attaqué des passants, la police, les gens qui passent au carrefour avec leur voiture, etc., sans aucune réaction importante de la police, sans aucune réaction à la hauteur des attaques en question. À la fin, un drame devait arriver. Ben voilà, il est arrivé.
Une inaction des autorités que condamne aujourd'hui Alliance Police Nationale. Contrairement aux périphrases employées par plusieurs ministres, le syndicat majoritaire n'y va pas par quatre chemins. Dans un communiqué où il se déclare ulcéré, il dénonce, je cite, « une lâche tentative d'assassinat perpétrée par une bande de voyous ». En conséquence, Alliance appelle tous les policiers à se contenter d'un service minimum afin de constituer un rapport de force pour que, je cite, « des grenelles de sécurité soient mises en place dans chaque département ». En quoi consiste au juste ce service minimum? Comme l'expliquait hier Fabien Van Emmerich, secrétaire général délégué à Alliance Police Nationale sur le plateau de BFM TV, je cite, arrêter les initiatives à partir du moment où on n'a plus les moyens de travailler en toute sécurité, tout en continuant d'assurer les urgences et les appels. C'est donc en fait plutôt une grève du zèle, comme beaucoup d'autres l'appellent, qu'un service minimum à proprement parler. Alors le syndicat revendique 4 points pour répondre aux problèmes trop fréquents, tels que celui survenu à Viry-Châtillon. Alors, premièrement, le recentrage immédiat du policier dans son cœur de métier. Deuxièmement, la révision des textes sur la légitime défense. Troisièmement, une réplique sans concession de la police et de la justice. Et quatrièmement, un renfort d'effectifs conséquent afin d'assurer la reconquête du territoire. Par recentrage immédiat du policier dans son cœur de métier, Alliance entend que la police soit employée de manière effective aux missions qu'il incombe à un agent de la force publique, assurer la sécurité des personnes et des biens, comme l'explique Fabien Van Emmerich, et non pas faire la garde statique, garder les hôpitaux, garder des portes, faire la circulation ou encore le transport de détenus, un cas de figure qui semble en plus se correspondre à la situation de samedi, jouer les vigiles dans une cité où tout porteur d'un uniforme est une cible de choix. Si Manuel Valls a rendu hommage aux policiers lors de sa tournée des commissariats à F de Viry, en compagnie de Bernard Cazeneuve, pour Philippe Capon, secrétaire général d'UNSA Police, les belles promesses politiques doivent laisser place aux actes.
Et je pense que le discours politique, c'est une chose, mais moi, ce que je vois, c'est mes deux collègues qui ont été gravement blessés, dont un collègue lutte aujourd'hui contre la mort. Et c'est voilà, c'est l'émotion que ça a mis dans la profession sur une mission dont on aurait pu se demander s'il n'aurait pas pu être fait autrement. Garder un pylône avec une caméra, c'est pas le boulot de la police. Donc on a inutilement exposé nos collègues dans le cadre de leur travail. Ça aussi, il faudra qu'on puisse prendre tout ça en considération. Dans un quartier qui est connu depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, depuis 20-25 ans, on a des problèmes là-bas.
Et ce n'est pas tant ces événements qu'Alliance entend condamner, mais toutes ces agressions auxquelles sont de plus en plus confrontés les agents de la police au quotidien. Des événements qui ne trouvent pas d'écho dans les médias et suscitent encore moins de réactions de la part des décideurs politiques, faute d'une gravité suffisante pour attirer les caméras.
Il faut savoir qu'au 31 décembre 2015, la police nationale a eu à dénombrer en opération de police 5736 blessés. Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, presque 6000 blessés en opération de police en intervention. Donc malheureusement, c'est des faits qui arrivent tous les jours.
Mais l'aggravation de la violence va de pair avec la diminution des moyens des forces de l'ordre au profit de leur réaffectation à la lutte antiterroriste, selon le criminologue Xavier Hoffer qui revient sur le phénomène.
Ce que je dis et ce que je répète, et personne ne m'a contredit sur ce point, c'est que depuis l'attaque de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, donc au mois de janvier, début du mois de janvier 2015, le gouvernement français est tétanisé et à moitié paralysé par ces affaires-là. Donc il a réagi en mettant toutes ses forces dans la bataille du terrorisme, et encore avec des succès moyens, puisque on en est à 239 morts dans les affaires de terrorisme depuis le mois de janvier 2015, mais le front de la sécurité au quotidien, le front du maintien de l'ordre dans les cités pratiquement hors contrôle, celles où la loi ne s'applique plus, dont la fameuse cité comme à Viry-Châtillon qui s'appelle la Grande Borne. Eh bien, ce front-là a été dégarni et donc les malfaiteurs en profitent pour se comporter de manière encore plus agressive et encore plus criminelle qu'avant, et maintenant au péril de la vie des policiers.
En guise d'illustration du manque de moyens alloués aux forces de l'ordre en charge de la sécurité des personnes au quotidien, Xavier Hoffer souligne que si les auteurs de cette attaque se sont rendus coupables d'actes dont la gravité devrait les exposer, en temps normal, à plusieurs décennies d'emprisonnement, aucune arrestation n'a encore eu lieu.
Du moment où les individus en question ont des cagoules, on ne sait pas quoi faire, quoi. Ce qui prouve qu'il n'y a aucune espèce de renseignement recueilli à l'intérieur de cette cité. S'il y avait du renseignement, on aurait su quels étaient les individus, les noms et les physiques qu'il y avait sous les cagoules, et donc on aurait pu les arrêter rapidement après ce crime.
L'autorité de l'État sera assurée. Il n'y a pas de zone de non-droit, affirme Manuel Valls. À voir, pour Philippe Caron, je cite, « Il n'y a pas de zone de non-droit, mais il y a des zones où la police ne peut pas faire son travail, donc ça dépend de ce qu'on appelle zone de non-droit. » C'était Maxime Perrotin, Radio Sputnik France.
Une mission parlementaire bipartisane, présidée par le député des Républicains Pierre Lellouche, semble remettre en cause la suprématie juridique américaine. Eh bien, notre chroniqueur Chano est là pour revenir sur la question.
L'impérialisme américain est aussi juridique. Laissez-moi vous parler aujourd'hui d'une petite bataille dans la guerre du droit que nous mènent les États-Unis. Le député républicain Pierre Lellouche et la socialiste Karine Berger ont pondu un rapport dans lequel ils dénoncent l'usage de la règle américaine à l'encontre des entreprises européennes. Les chiffres avancés donnent le vertige. Je cite par exemple, les entreprises européennes ont en quelques années versé aux différentes institutions et administrations américaines 16 milliards de dollars. Et cela pour les seules infractions aux embargos décidés par les États-Unis. Exemple, la BNP qui a été condamnée en juin 2014 à verser près de 9 milliards de dollars par la justice américaine pour avoir contourné les règles d'embargo au Soudan et en Iran. Car en effet, les règles d'embargo s'imposent aux transactions en dollars. Autre exemple, la Deutsche Bank est aujourd'hui contrainte de négocier pour diminuer les 14 milliards de dollars exigés par le département de la justice américain pour la vente de produits toxiques. Oui, vous avez bien entendu, pour la vente de produits créés par le capitalisme de Wall Street. Bref, je résume, des entreprises qui n'impliquent pas de personnes physiques ou morales américaines sont donc condamnées pour des opérations effectuées hors du territoire américain. Alors nos députés, Lellouche et Berger, parlent à juste titre de racket, à juste titre car il est difficile de qualifier de manière plus diplomate une telle agressivité juridique. Le juge américain se déclare compétent pour trancher toute activité commerciale désignée par le pouvoir exécutif américain. Ce juge est devenu une pièce maîtresse du jeu de puissance de Washington. Alors nos entreprises sont clairement ciblées, comme le souligne Karine Berger, elles sont surreprésentées dans ces poursuites qui trahissent une, je cite, « utilisation abusive du droit américain » qui perturberait, selon nos parlementaires, les règles de la mondialisation et de la concurrence. Alors en réponse, nos députés voudraient, je cite, un réarmement juridique européen et pousser l'Amérique à la clarté en ce qui concerne les sanctions américaines internationales. Aussi plaide-t-il pour la saisine de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, en cas de différend, et bien sûr pour la promotion de l'euro plutôt que du dollar dans les transactions internationales. Bien sûr, ces pistes sont aussi justes que nécessaires, mais il nous faut en effet nous battre avec les armes qui sont à notre disposition. Car évidemment, après des décennies de naïveté, nous sommes contraints à un rapport du faible au fort. Mais au-delà de la technique, sans doute, nous faudrait-il faire davantage afin de faire évoluer notre caractère pusillanime et rompre avec l'idée d'une concurrence pure et parfaite servant une mondialisation heureuse. Car nous vivons une révolution du droit. Il nous faut aller à l'essence du problème. La norme n'est plus la loi fixée par le peuple, elle n'est plus le reflet d'une culture particulière, mais la règle qui garantirait l'extension indéfinie du marché et de la croissance, la mise au pas des commerces mondiaux à la loi américaine. Alors les États-Unis avancent leur système normatif qui, naturellement, sert leur propre intérêt et leur seul intérêt. C'est cette vision, bien sûr plus polémologique qu'économique, qui devrait déterminer nos prochains mouvements.
7 jours par semaine, nous délivrons l'essentiel de l'information. Radio Sputnik, nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
À Ventimille, Médecins du Monde et plusieurs autres ONG appellent solennellement à la réouverture de la frontière franco-italienne.
Leur colère intervient 3 jours après le décès d'une adolescente érythréenne percutée par un poids lourd sur l'autoroute alors qu'elle tentait de franchir la frontière.
Il faut dire que les 2/3 des migrants en transit à Ventimille sont originaires du Soudan et pour 10% d'entre eux d'Éthiopie et d'Érythrée, dont le régime totalitaire rend les ressortissants éligibles à l'asile en France.
Alors la pression extérieure du flux migratoire continue à monter, tandis que les pays européens ferment leurs frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Alors les migrants semblent coincés, quelle solution à ce problème? On écoute.
Cette mort est inacceptable, alors que toute la classe politique française dénonce les accords de Touquet. Et l'externalisation de la politique britannique en France, la France fait la même chose ici à sa frontière italienne. Ce qu'a dénoncé Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde, lors d'un point de presse convoqué avant le décès de l'adolescente érythréenne percutée par un poids lourd sur l'autoroute entre Ventimille et Menton alors qu'elle tentait de franchir la frontière franco-italienne. Plusieurs organisations de terrain accusent les autorités françaises de créer un nouveau calais dans la ville italienne où les migrants se retrouvent bloqués. 2 mois se sont écoulés depuis le passage en force de 200 migrants à Menton le 5 août. 2 mois se sont écoulés depuis que le maire de Menton, Jean-Claude Guibal, a demandé au ministère de l'Intérieur à renforcer le dispositif policier et militaire à la frontière avec l'Italie en le complétant par un contrôle antiterroriste. La situation ne s'améliore pas et la pression ne retombe pas. Une des raisons est la composition du camp. Les deux tiers des migrants en transit à Ventimille sont originaires de Soudan et 10% d'entre eux viennent d'Éthiopie et d'Érythrée, dont le régime totalitaire rend les ressortissants éligibles à l'asile en France. Mais pour Laurent Chalard, géographe en European Centre for International Affairs, la vraie raison est ailleurs.
On a affaire au problème du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne à travers le fameux espace Schengen. C'est-à-dire que comme l'Union européenne est dans l'incapacité de contrôler ses frontières, on a des afflux permanents de migrants qui remontent au fur et à mesure vers les pays européens dans lesquels ils souhaitent aller, en général les pays d'Europe du Nord-Ouest, les plus riches. Une fois qu'ils sont rentrés dans un pays d'Europe du Sud, en général, ils ne souhaitent pas y rester, donc ils cherchent à franchir les autres frontières. Qu'aujourd'hui, les autres pays d'Europe du Nord-Ouest ne souhaitent plus accueillir de nouveaux migrants. Donc, il commence à y avoir une politique de fermeture. On le voit en France, au niveau de la frontière avec l'Italie, et on le voit au Royaume-Uni avec le détroit du Pas-de-Calais et avec les camps de Calais. Donc, on a de plus en plus des migrants qui se retrouvent bloqués à des frontières entre deux pays européens. Ça, c'est lié à la politique de fermeture entre les États, puisque l'Union européenne est incapable de surveiller ses frontières extérieures. On revient bien au problème premier, c'est l'incapacité à contrôler ses frontières extérieures.
Au cours des 12 derniers mois, plus de 100 000 migrants sont entrés en Italie. Cette forte pression migratoire amène les migrants à ne pas se contenter d'essayer de passer la frontière par l'autoroute, la voie ferrée ou la route de bord de mer, mais à remonter même dans l'arrière-pays à tenter de passer la frontière par des petits chemins de montagne.
On a aujourd'hui le problème, il se situe au niveau de la Libye. C'est-à-dire qu'on a eu une déstabilisation totale de ce pays depuis la chute de Kadhafi en 2011. Or, la Libye, traditionnellement, était un pays récepteur d'immigration, en particulier d'Afrique noire. Donc, il y avait beaucoup d'immigrants qui allaient en Libye, mais qui travaillaient dans l'industrie pétrolière en Libye. Une fois que la Libye a été déstabilisée, vous avez ce pays qui est devenu un pays d'émigration. C'est un pays que l'on quitte. Et surtout, ça a créé un vide politique sur place, ce qui a été favorable à l'arrivée massive de migrants qui souhaitaient rejoindre l'Union européenne. Aujourd'hui, le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle du pays de départ, contrairement au cas du Maroc. Au milieu des années 2000, on avait une forte immigration clandestine qui allait du Maroc vers l'Espagne, mais suite à la militarisation de la frontière, aussi à des accords passés entre l'Espagne et le Maroc s'est arrangé pour qu'il n'y ait plus de migrants qui passent. Donc aujourd'hui, tant que la Libye sera dans une situation politique instable, on aura à nouveau des flux de migrants qui vont continuer pendant un certain nombre d'années.
Une situation de blocage se profile de deux côtés. La crainte que parmi les centaines de migrants qui arrivent sur le territoire français se cachent des possibles terroristes et la pression humaine des milliers de migrants qui, après avoir fait un long voyage, se retrouvent bloqués entre les deux frontières, mais qui n'abandonnent pas leur désir de parvenir à une destination rêvée. C'était Oksana Bobrovitch pour la Radio Sputnik France.
Dernières actualités, des analyses d'experts et des enquêtes exclusives. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Vladimir Poutine reporte sa visite à Paris prévue le 19 octobre.
Elle était programmée depuis longtemps cette visite et le président russe devait participer à l'inauguration du centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris.
Mais depuis que la Russie avait mis son veto aux Nations Unies à une résolution française qui appelait à cesser les bombardements sur Alep, François Hollande hésitait à le recevoir.
Alors retour sur les déclarations politiques alors que François Hollande s'exprime ce jour au Conseil de l'Europe à Strasbourg.
Recevoir, ne pas recevoir, viendra pas. Finalement, la question s'est soldée par un report de visite. Depuis samedi dernier, la venue de Vladimir Poutine à Paris divise la classe politique française. Le président François Hollande hésitait à recevoir son homologue russe après que la Russie ait mis son veto aux Nations Unies à la résolution française appelant à la cessation des bombardements sur Alep. François Hollande laissait planer le doute sur la rencontre présidentielle prévue le 19 octobre prochain. Les conditions du président français, réitérées dans son discours devant le Conseil de l'Europe, étaient les suivantes. François Hollande n'assistera pas aux cérémonies et inaugurations pour lesquelles le président russe devait initialement venir, mais maintiendra sa rencontre uniquement s'il est question de la Syrie. Côté russe, le Kremlin avait tout d'abord hésité à maintenir sa visite, puis finalement l'avait officiellement reportée. Dommage, estime le sénateur Modem UDI Yves Pozzo di Borgo.
Tout d'abord, je trouve que la France, que Hollande a été maladroit dans ce genre de choses, parce que le dialogue, ça se fait pas comme ça publiquement. Hollande s'est cristallisé sur cette affaire de Syrie. Bien sûr qu'il y a des excès, on le sait, mais franchement, la maladresse d'Hollande de se cristalliser pour défendre des rebelles quand on sait qu'ils sont très proches de Daesh, on ne comprend pas la politique de la France. Par contre, il a raison de dire, c'est vrai qu'il y a quand même des excès qui se rendent, plus que des excès d'ailleurs, dans ces bombardements, il faut qu'il en parle. Mais je regrette, moi, sérieusement, que cette visite n'ait pas eu lieu, parce qu'elle aurait pu avoir lieu dans la logique, d'inauguration de l'église orthodoxe de Paris, et ça n'empêchait pas, après, qu'il y ait un dialogue discret entre Hollande et le président Poutine. Ce sont des gens qui se connaissent, ils auraient pu très bien discuter, sans en faire comme l'a fait Hollande, sans la mise en scène qu'en a fait le président Hollande. Et sérieusement, je regrette profondément l'annulation de ce voyage, parce que ça a encore accentué les tensions avec la Russie, on n'a pas besoin, alors qu'on a besoin de dialogue, on a besoin de l'accord de la Russie pour trouver des solutions en Syrie comme ailleurs.
Jean-Marc Ayrault avait également assuré que si Vladimir Poutine venait, ce ne serait pas pour des mondanités, et entendait également saisir la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre commis à Alep, selon Paris.
Quand des Américains bombardent l'hôpital de MSF, tout le monde se tait. Attendez, pourtant, les hôpitaux en Afghanistan de MSF a été bombardé par les Américains. Alors, la seule enquête a été l'enquête d'Américains qui dit non, c'est un accident. C'est un accident qui a quand même duré trois quarts d'heure. Ils savaient que c'était des hôpitaux de MSF. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est excessif. Alors, bien sûr qu'il y a, dans toute guerre, il y a des crimes de guerre, il y a des crimes qui dépendent de la Cour pénale internationale. Mais là, franchement, bon, Pirot, bon, c'est un peu le porte-poids de Hollande. Moi, je trouve qu'il est tout à fait normal que la Cour pénale internationale s'intéresse à tout ça par la suite, mais aussi qu'elle s'intéresse au crime de Daesh, qu'elle s'intéresse au crime des rebelles, qu'elle s'intéresse au crime de Bachar al-Assad. Mais il faut qu'elle s'intéresse à tous les crimes, et pas dans un seul sens.
Pour la députée UMP Valérie Boyer, l'hésitation initiale du président François Hollande dénote d'une incapacité à comprendre la crise syrienne depuis maintenant 4 ans. De ne pas recevoir Vladimir Poutine aurait été une erreur.
Je pense que d'une façon générale, il est impératif de maintenir le dialogue avec la Russie. Je dirais même qu'on ne peut pas ne pas discuter avec la Russie. La Russie est un pays ami, on partage trop de choses dans l'histoire de nos deux pays pour interrompre le dialogue. Et moi, je reste convaincue que, bien évidemment, François Hollande se doit d'accueillir le président russe. François Hollande lui-même, quand il était venu devant le Congrès après le 13 novembre, donc, avait dit qu'il fallait proposer une grande coalition avec la Russie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment. Et tout ça, c'est délité. Aujourd'hui, il y a la question des crimes de guerre à Alep. Oui, c'est sûr qu'à Alep, il y a des crimes de guerre. Il y a des crimes de guerre à Sanaa aussi, et personne ne dit rien. Mais je constate aussi que c'est le résultat de notre impuissance, puisque depuis 4 ans, on n'arrive pas à former une grande coalition et que notre incapacité à comprendre la crise syrienne, mais surtout à agir, est dramatique.
Dans son discours face au Conseil de l'Europe à Strasbourg, François Hollande a répété qu'il fallait un dialogue ferme avec la Russie et la France était prête à tout moment à une rencontre avec le président russe. Le dialogue avec la Russie est nécessaire, mais seulement sur des bases claires. Le veto russe met un terme à la prolongation de la discussion sur les principes énoncés par François Hollande. Trêve, acheminement de l'aide humanitaire et enfin négociation. Jean-Marc Ayrault, de son côté, réfute, lui, le terme de crise diplomatique grave. Gaël Nicole, Radio Sputnik France.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Vous êtes toujours sur Radio Sputnik et nous continuons à suivre l'actualité.
Les journalistes inquiets au sujet de la loi Égalité et Citoyenneté. Alors que le Sénat examine le projet en séance publique aujourd'hui même, avant de voter le 18 octobre, les rédactions du Monde, du Figaro ou encore de l'Humanité craignent que le projet de loi porte atteinte à la liberté de la presse et appelle à une mobilisation contre une loi liberticide. Nous revenons sur le sujet dans la suite de l'émission, éclairée par le commentaire de Dominique Pradalier, secrétaire général du Syndicat national des journalistes.
6714 policiers blessés en service en 2015, selon une note publiée ce mardi par l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. Un léger repli de 2,8% par rapport à 2014. 50% de ces blessures résultent d'accidents bénins. Cela signifie donc qu'environ 3500 d'entre elles sont le résultat d'agressions. Les chiffres de 2016, année sombre avec les manifestations contre la loi travail, ne sont pas encore connus.
L'Union européenne met-elle la Russie et Daesh dans le même sac ? Dans une résolution votée le 8 octobre, la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen appelle à mieux combattre la propagande que distille selon elle la Russie et l'organisation terroriste Daesh. Et parmi les médias dangereux cités dans le rapport, on trouve Sputnik, les réseaux sociaux russes, l'église orthodoxe ou encore les trolls. Retour sur cette résolution qui juxtapose les médias russes à l'étranger et la propagande de Daesh dans la suite de l'émission.
Le syndicat néerlandais FNV et un travailleur bangladais menacent la FIFA. Le but, exiger la fin de l'esclavage moderne qui sévirait sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le syndicat a lancé un ultimatum à la FIFA qui doit réagir à la demande dans les 3 semaines, après quoi un procès sera ouvert au tribunal de Zurich. Amnesty International avait déjà publié en mars un rapport dénonçant les abus que subissent les travailleurs népalais ou bangladais au Qatar. Logés dans des camps sordides, certains d'entre eux n'auraient pas été payés pendant plusieurs mois et leurs passeports confisqués.
Sputnik autour du monde.
Et aujourd'hui, Sputnik autour du monde nous emmène en Chine et en Allemagne, et puis pour une pause café en Afghanistan.
En effet, nos correspondants ont interrogé des experts sur la prochaine génération de chars que développe la Chine.
Le vice-président du parti Alternative pour l'Allemagne, l'AFD, partage avec Sputnik Deutschland sa vision sur la politique de Merkel.
Et enfin, pour le moins surprenant, Sputnik Dari nous apprend enfin que désormais les habitants de Kaboul, elles aussi, peuvent fixer un rendez-vous dans un café.
La Chine est en train d'inventer une nouvelle génération de chars. C'est l'unique pays du monde, excepté la Russie, qui a décidé de passer entièrement de la modernisation des anciens modèles à la construction d'un char foncièrement nouveau. Ce qui a déclaré dans une interview à Sputnik Chine, l'expert militaire Vassili Kachin. Quelques images de ce nouveau char ont été diffusées à la télévision chinoise centrale, CCTV, ce qui montre qu'il existe déjà des prototypes relativement opérationnels. D'après nos informations, ce char aura en particulier une tourelle non habitée, les deux membres d'équipage étant installés dans le corps du char, par ailleurs doté d'un nouveau moteur de plus de 1500 chevaux. Le nouveau char chinois aura un haut degré d'automatisation, sera doté de systèmes informatiques modernes, etc. Pour l'instant, il est difficile de prévoir quand sera lancée la production en série du char. Il est plus compliqué de mettre en service de nouveaux blindés pour les troupes terrestres que de nouveaux avions de combat. Un avion qui termine son vol retourne à la base pour maintenance, alors que les chars restent des semaines, voire des mois, sur le terrain où les possibilités de les remettre en état sont limitées. Ainsi, les problèmes de fiabilité et de remise en état ont une importance particulière. Néanmoins, quand le constructeur chinois aura réglé ces questions, il est possible que la Russie et la Chine soient les seuls fournisseurs de chars de nouvelle génération au monde. La construction de chars en Occident est pratiquement suspendue et les nouvelles chars indiens, turcs ou d'autres pays en développement sont à peu près au niveau des anciens modèles occidentaux. Les nouveaux blindés russes et chinois seront sans doute les principaux concurrents sur le marché mondial de l'armement, résume l'expert militaire russe Vassili Kachin. Merkel doit partir ou encore traîtresse à la patrie. Des slogans chocs ont retenti le 3 octobre dernier à Dresde lors de la journée de l'unité allemande. Réunis sur la place de Neumarkt, des manifestants ont accusé de trahison la chancelière allemande Angela Merkel, de plus en plus impopulaire dans le pays à cause de sa politique d'accueil des migrants. Parmi ces manifestants se trouvaient le fondateur du mouvement populaire Pegida, Lutz Bachmann, et des militants du parti politique eurosceptique Alternative pour l'Allemagne, AFD. « Nous ne sommes pas agents de l'influence russe », assure Alexandre Goland dans une interview exclusive à Sputnik Deutschland. Le vice-président et porte-parole du parti Alternative pour l'Allemagne considère que désormais c'est la politique de Merkel qui divise les Allemands.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de la scission publique entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Il y a la scission publique entre ceux qui estiment erronée la politique de la chancelière ayant ouvert l'accès dans le pays à 1 million de personnes et ceux qui soutiennent une telle politique, en considérant que nous sommes en mesure de régler les problèmes qui s'imposent. Cette scission publique existe, mais la ligne de délimitation dans la société ne passe pas entre l'Est et l'Ouest. Ce phénomène existe dans les Länder tant occidentaux qu'orientaux.
Et les médias ont-ils changé d'attitude envers le parti Alternative pour l'Allemagne après les récents succès aux élections dans le Länder de Mecklenburg-Poméranie antérieure et à Berlin?
Je ne vois pas de changement suite à notre succès. Je n'ai jamais considéré les médias comme un phénomène homogène, comme cela découle de votre question. Plusieurs médias commentent notre parti. Mais en ce qui concerne l'interprétation de tels ou tels événements, nous ne sommes pas parmi ceux qui bénéficient du soutien des journalistes. Cela prévient de l'éducation de plusieurs journalistes et de la propagande dans les éditions des idées proclamées lors des manifestations de protestation de 1968. Cela n'est pas lié aux élections à Schwerin et à Berlin. Il en sera ainsi à l'avenir également. Il existe néanmoins une image objective et avantageuse pour nous du parti Alternative pour l'Allemagne dans les médias.
L'émission Frontal 21 de la chaîne de télévision ZDF a publié cette semaine un sujet dans lequel le parti Alternative pour l'Allemagne et Alexandre Goland, porte-parole du parti Alternative pour l'Allemagne en particulier, ont été présentés comme l'arme du Kremlin.
C'est sans doute une absurdité. Dans ce sujet, il était question de ma visite d'une journée à Saint-Pétersbourg, pendant laquelle je me suis entretenu en fait avec des conseillers politiques, ainsi qu'avec les conseillers de Poutine. Or, nous ne sommes pas agents d'influence de la politique étrangère russe, et nous ne le serons jamais. J'entends de tels reproches depuis longtemps, mais je ne les ai jamais pris au sérieux, et je ne le fais pas actuellement non plus.
Et en général, les Allemands sont de plus en plus mécontents de la politique menée par la chancelière. Selon un sondage, la moitié des Allemands s'opposent à une quatrième nomination d'Angela Merkel au poste de chancelière. Un message de paix et d'espoir. Désormais, les habitantes de Kaboul peuvent se fixer un rendez-vous dans un café. Il y a dans la capitale afghane des centaines de cafés et de restaurants, mais on ne saurait les qualifier d'universellement accessibles, ouverts aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les citadines, qu'elles soient étudiantes ou businesswomen, restent habituellement chez elles. Maintenant, elles ont une nouvelle chance de socialisation. Le café Barana a ouvert ses portes aux visiteurs de Shahir Inou, l'un des quartiers luxueux de Kaboul. L'une des fondatrices du restaurant, Jaden Chaban, raconte dans une interview à Sputnik Dari des motifs de l'ouverture du premier café pour les hommes et pour les femmes en Afghanistan. Nous gérons ce café-restaurant collectivement. Nous sommes trois amis, dont deux travaillent au ministère afghan des Affaires étrangères et la troisième au ministère du Développement économique. Mes amis et moi, nous nous sommes habitués depuis nos années d'études et nous avons fait nos études à Delhi à prendre du thé et du café dans un café local. Et c'est à ce moment que nous avons décidé d'organiser quelque chose de similaire dans notre pays pour que les visiteurs puissent se donner des rendez-vous informels et d'engager des conversations officielles dans un endroit calme, bref, un passe-temps normal. Six hommes travaillent pour le moment dans notre café, mais nous comptons bien embaucher des jeunes filles. Tant les hommes que les femmes font partie de nos visiteurs et cela nous réjouit. Certains médias se sont montrés mécontents parce qu'en se rendant dans notre café, les femmes sortent de chez elles et essaient d'établir ici des liens d'affaires. À leur avis, la femme ne doit travailler que chez elle. Or, cette époque est révolue. Nous voulons que les femmes se sentent des membres à part entière de la société, gagnent de l'argent et nous essayons d'encourager leur ambition. En ce qui concerne la concurrence, elle ne disparaîtra jamais et nous y sommes prêts. Certes, nous comprenons qu'il sera difficile de devancer les autres au plan du menu, mais nous ne nous fixons pas un tel objectif. Nous mettons le cap sur l'ambiance inégalée, les possibilités égales, du calme dont ne sauraient se vanter les autres cafés de la capitale afghane, affirme Jaden Chaban, une des propriétaires du café ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes à Kaboul.
Spoutnik autour du monde, tous les jours à 17h30.
Billy the Kid est peut-être mort en juillet 1881, mais ce mois-ci, le 29 exactement, naissait aussi la loi qu'on appelle assez logiquement la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Et ça, c'est bien, pour des raisons qu'on ne s'attardera pas à détailler ici. Seulement, cette loi séculaire pourrait bien se voir un peu vidée de son contenu si on en croit la tribune des journalistes de la SDJ, publiée ce mois d'octobre 2016. Il faut dire que depuis mardi 4 octobre, le Sénat examine le projet de loi « Égalité et citoyenneté » et sur le site du gouvernement, on peut lire que ce texte est la, je cite, « traduction législative des mesures issues des comités interministériels à l'égalité et à la citoyenneté des 6 mars et 26 octobre 2015 et qu'il s'attache à trois priorités indispensables pour retisser les liens de la communauté nationale, la citoyenneté et à l'émancipation des jeunes, pardon, le logement pour lutter contre la ghettoisation de certains quartiers et l'égalité réelle. En gros, c'est vaste. Mais quel rapport avec la liberté de la presse et la loi du 29 juillet 1881 ? Eh bien, dans certains amendements introduits par certains sénateurs, on trouve des articles qui pourraient bien réduire drastiquement les libertés de la presse établies par cette loi, qui se verrait plus ou moins vidée de son contenu si on en croit la tribune d'une vingtaine de sociétés de journalistes inquiets, publiée dans Le Figaro vendredi dernier. Dans la partie consacrée à la lutte contre les abus d'Internet, dont on ne remet pas en cause l'importance, on trouve plusieurs mesures que les journalistes remettent en cause. Petit 1, l'abolition de la prescription à partir de 3 mois. Désormais, les infractions sont donc imprescriptibles, ce qui établit une discrimination à l'encontre de la presse numérique. Petit 2, la remise en cause du principe selon lequel c'est à celui qui s'estime injurié ou diffamé de préciser exactement où et comment et de qualifier son délit sans quoi la procédure est nulle. Et petit 3, enfin, un contournement de notre fameuse loi en autorisant les actions en justice sur simple faute civile, c'est-à-dire que n'importe quel particulier peut exiger des dommages et intérêts pour un article qui lui déplaît. Bon, alors c'est un peu technique et on suppose que l'idée part d'un vrai désir de lutte contre les abus d'Internet par rapport à tout ce qui est diffamation, injures racistes ou autres plaies du genre. Mais pour les journalistes de la SDJ, des médias qui publiaient leur tribune vendredi, il s'agit aussi, au passage, je cite, d'un projet de loi liberticide qui met en péril l'un des piliers de la démocratie consacré par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons pu interroger Dominique Pradalier, secrétaire général du syndicat national des journalistes, qui revient plus en détail sur les revendications des journalistes, ou plus exactement sur l'aspect non nécessaire des amendements en question. Au-delà de leur aspect liberticide, ce sont des propos recueillis par André Zélénine.
Le syndicat national des journalistes n'a absolument rien contre la loi égalité, bien évidemment, mais a tout contre certains amendements qui ont été introduits par plusieurs sénateurs, qui, sous prétexte d'égalité, veulent mettre bas une partie du statut des journalistes des entreprises de presse, notamment ce qui concerne la diffamation. La diffamation et dont les abus sont punis très régulièrement, et c'est très bien, est une partie de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, et elle est très bien codifiée, et dans sa façon d'être appréhendée et jugée, et dans les délais que les citoyens peuvent bénéficier pour se porter en justice. Les amendements ONI et scélérats font voler tout ça en éclats. Il n'y aurait pratiquement plus du tout de prescription de ces délits. Ça, c'est extrêmement grave parce que ça instaure une insécurité juridique pour tout le monde. Et la deuxième, c'est que au lieu de faire l'objet de recours devant la justice pénale, ça passerait à la justice civile. Alors, c'est un océan parce que la justice pénale a plus d'un siècle de jurisprudence. Elle sait faire la proportionnalité entre la liberté d'information et les libertés individuelles. Elle sait enquêter, elle a les pouvoirs d'enquêter, alors que la justice civile n'a pas d'expérience pour commencer, ne cherche pas à savoir s'il y a une proportionnalité, c'est-à-dire s'il y a une diffamation avéré peut-être, mais si on en amnistie les auteurs parce que les informations sont d'intérêt général, la justice civile ne fera pas ça. Elle va chercher s'il y a diffamation et s'il y a un préjudice. Et s'il y a un préjudice, elle condamne et blanc. Et c'est tout, et point final. Et quant à l'enquête, eh bien, elle est faite, si on veut qu'elle existe, elle doit être faite et rémunérée par les auteurs qui sont devant la justice. Vous voyez que ça n'a aucun rapport, et ce ne sont que des dangers qui guettent l'adoption de tels amendements.
Et quand on soulève l'idée que si on propose ces amendements, c'est au nom de la défense de l'égalité réelle, par exemple pour lutter contre la propagation de messages à caractère raciste, Dominique Pradalier le dit, c'est absurde. Trois fois absurde.
Oui, c'est absurde. C'est absurde. C'est absurde et c'est faux. D'abord parce que la discrimination et le racisme sont parfaitement cadrés par des lois spécifiques qui sont appliquées tous les jours. Et c'est très bien. Il n'y a pas besoin de rajouter des éléments attentatoires à la liberté de la presse.
Les questions directes et sans concession sont l'arme la plus puissante que l'on ait. Aussi longtemps que vous aurez des questions, nous continuerons à enquêter. Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
La commission des affaires étrangères du Parlement européen appelle à se méfier de la propagande de Daesh et de la propagande russe. Les médias alternatifs alors seraient-ils désormais assimilés aux terroristes ?
Xenia Loukianova est avec nous en studio pour nous en parler plus en détail.
Bonjour Marie, bonjour Edouard. Tout à fait, la résolution a été signée le 8 octobre et sur le site internet du Parlement européen, un communiqué de presse est paru hier soir intitulé, je cite, « Faites attention à la propagande russe et à celle de Daesh, mettent en garde les députés des affaires étrangères ». Fin de citation. Est-ce que le mot-clé ici est propagande ou russe ou Daesh ou propagande russe ou propagande Daesh ou Daesh russe ou russe Daesh, je ne sais pas. Mais en tant que journaliste travaillant pour Spoutnik, j'ose dire que la comparaison des médias russes avec Daesh me déplaît, m'étonne sincèrement. Car il s'agit bien des médias russes travaillant à l'étranger qui seraient utilisés initialement pour servir la propagande russe, comme ce rapport l'explique. Dans le rapport de Madame Anna Fatig, le rapporteur du Comité des Affaires étrangères du Parlement européen et l'ex-ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Spoutnik est mentionné noir sur blanc à côté des autres médias russes, des trolls, des réseaux sociaux russes et de l'église orthodoxe. Je pense qu'il avait oublié d'ajouter dans la liste le ballet russe et Dostoïevski, peut-être encore...
Ou encore la vodka.
Ah non, Edouard. Par contre, ici, la vodka ne marche pas parce que il existe aussi une vodka polonaise. Bon, je rigole, mais ici, il s'agit bien des choses sérieuses, très sérieuses. C'est une des plus grandes institutions européennes qui met dans le même sac les médias russes, dont les journalistes qui travaillent pour, comme vous et moi, avec Daesh, dont ses propagandistes, donc ses propagandistes et combattants. Donc, moi, j'en déduis qu'un journaliste qui a un point de vue alternatif sur un sujet serait aussi dangereux qu'un terroriste qui coupe les têtes et qui fusille des centaines de personnes qui embrigadent des garçons et des filles pour les envoyer en Syrie pour faire la même chose. Donc,
est-ce que c'est une question que tu as pu poser à ceux qui ont signé la résolution ?
Presque, je peux le dire, parce que nous avons essayé de poser cette question à Anna Fotega, mais nous sommes tombés sur son assistant qui, avec un ton froid, pour ne pas dire désagréable, a annoncé que Madame Fatega ne voulait pas parler à Spoutnik.
Est-ce qu'il a dit pourquoi ?
Il a dit que nous avons qu'à aller lire le texte de la résolution pour comprendre pourquoi Madame Fatega ne voulait pas nous parler. Donc, je suis une bonne élève et je fais ce qu'on me dit de faire. Donc, je suis allée de suite lire le texte de la résolution quand nous avons pu nous procurer une version provisoire de la résolution. Dans le texte, j'ai trouvé qu'un des dangers majeurs que les médias russes et la Russie représentent pour l'Europe est de remettre en cause les valeurs européennes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les valeurs européennes représentent un champ assez large et pour ne pas aller trop loin, donc j'ai décidé de voir ce que Madame Fatega a pu dire sur l'EVG, ce débat, comme vous vous le souvenez, qui a secoué l'Europe il y a 2 semaines, qui a divisé pas mal de personnes, notamment en Pologne et dans d'autres pays européens. Et donc, au centre de ce sujet, un droit qui touche les valeurs humaines, des droits des femmes, des valeurs démocratiques, Anna Fatega appelle l'avortement l'euthanasie non volontaire des enfants. C'est une citation mot à mot que j'ai trouvée dans ses interviews. Là, je trouve qu'on n'est pas très loin de l'église orthodoxe qu'Anna Fatega elle-même met dans la liste des outils de la propagande russe. Parmi les raisons qui prouvent le comportement hostile de la Russie, dans ce rapport on trouve des cyberattaques russes contre l'Estonie en 2007 et la guerre en Géorgie. Le choix est assez intéressant, donc ça touche toujours un petit peu l'Est de l'Europe, mais bon, la seule chose qui pouvait prouver que les cyberattaques seraient orchestrées par le Kremlin, c'était la seule accusation de Staline et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour la guerre en Géorgie, d'autant plus parce que c'est seulement après la guerre en 2009, le rapport européen est sorti. Européen, je répète, qui a confirmé que c'était la Géorgie qui a commencé la guerre en attaquant la ville de Tsinsfale. Donc, mais ce rapport est sorti post-factum, donc dans les mémoires des Européens, la Russie est restée encore une fois dans le rôle de l'agresseur. Mais comme on dit en France, c'est la vie. Encore un mot sur Anna Fatigh, qui a préparé le texte de la résolution. Dans ses interviews, elle parle souvent de la 5e colonne russe en Pologne. Mais pas seulement russe, comme elle certifie. Il y a des 5e colonnes de nombreux d'autres pays, y compris Allemagne, par exemple. Donc, voici. Il faut juste réfléchir à tout ce genre de danger. Et pour terminer, sur les dangers des médias russes et qui travaillent à l'étranger, je ne vais pas donner trop de commentaires ou trop d'émotions, malgré le fait que je suis vraiment touchée. Je vais juste dire que l'agence russe, par exemple, de RFI existe depuis 1983. L'agence russe de la BBC existe depuis 1946. L'agence russe de la Voix de l'Amérique existe depuis 1947, jusqu'au jour où je vous parle là maintenant. Donc, comme des dizaines d'autres médias étrangers qui travaillent en Russie. Et je peux juste dire, je suis russe et je suis française et je vis en France. Ici, dans le pays où les valeurs démocratiques sont supposées d'être respectées, par exemple, comme le pluralisme de la presse.
Merci Xenia. Et on a pu interroger à ce sujet l'eurodéputé espagnol Javier Couso Permuy, qui a voté contre la résolution et qui est le rapporteur du rapport minoritaire s'opposant au texte.
C'est un projet d'informe que se l'a encargé à faire à la députée Fatigh, qui además es presidenta de la subcomisión.
C'est un projet de résolution qui a été confié à la députée Fatigh, qui est aussi présidente de la sous-commission de défense et de sécurité. Déjà, le personnage en lui-même permettait de prévoir le contenu de ce texte, car c'est une personne qui relève de la pathologie politique russophobe. C'est une personne qui ne fait que parler contre la Russie dans toutes ses interventions, qui surévalue les différences qui existent entre la Russie et l'Europe. Pour elle, que ce soit la commission de défense ou aux affaires étrangères, la Russie est responsable de tout ce qui se passe.
Rusia es la culpable de todo lo que está pasando. Yo tengo una anécdota, ¿no? Incluso visitando la sede.
J'ai une anecdote avec elle. Nous visitions les locaux d'Eurocontrol qui est chargé du contrôle aérien des vols civils et militaires en Europe. Elle a demandé à son directeur de se déconnecter de la Russie. Le directeur lui a répondu que les avions s'écraseraient. À ce niveau de paranoïa, cette femme a un complexe de persécution contre la Russie, et cela apparaît clairement dans son texte.
De paranoia persecutoria lleva esta señora contra Rusia, ¿no? Y se ve claramente en su informe, ¿no? Un informe que ataca al periodismo.
Son texte s'attaque aux journalistes et montre du doigt un certain nombre de médias et demande le soutien des centres de communication de l'OTAN pour les attaquer. Elle compare un pays représenté à l'ONU avec une organisation terroriste comme Daesh. En plus, le texte est truffé de paradoxes, comme par exemple lorsqu'elle propose d'appuyer financièrement des médias qu'elle qualifie d'indépendants sans se rendre compte que justement, en copiant le système de la net américaine et en finançant directement ses moyens de communication, ils deviendraient dépendants et promulguerait son discours fou.
De algunos mecanismos que son copia de la net estadounidense, de la Fundación para la Promoción de la Democracia, lo que va a convertirlos en medios dependientes y medios que van a funcionar para que mantener este discurso enloquecido. Y además se compromete también a la formación de periodistas.
Elle veut aussi s'attaquer à la formation des journalistes. Cela me semble être un décalage total et cela traduit la ligne russophobe de cette Union européenne et ce Parlement, et en particulier par la voix des partis d'extrême droite ou de la droite normale polonaise ou des Pays-Baltes. Cela me rappelle les pires heures du macartisme qui tentait de rééditer une guerre chaude et non plus une guerre froide avec la Russie.
À une espèce de macartisme tratant de rééditer une guerre ya no fría sino caliente con Rusia. Y se señala continuamente. Yo les acusé en una intervención, además, de poner bajo punto de mira el trabajo periodístico.
Cela est permanent. Je les ai accusés dans une intervention de montrer du doigt le travail journalistique et les employés de Sputnik, de Russia Today, d'Hispan TV, de Télésour, alors qu'on se souvient de la manière agressive dont se sont comportés les États-Unis lors des dernières guerres contre Al Jazeera ou l'hôtel Palestine. Cela me semble gravement irresponsable. Surtout, je suis très préoccupé que les sociétés de presse ne répondent pas à cette attaque, qui non seulement constitue une attaque à la liberté de la presse, mais mettent en danger le travail des journalistes comme vous. Ils disent que vous, Sputnik, vous êtes au service de la politique agressive et militaire de la Russie contre l'Union européenne et que vous interférez avec le travail de l'UE. C'est extrêmement grave. mais cela participe d'une campagne agressive qui pourrait aboutir à des attaques contre vos médias, comme cela est arrivé en Espagne avec Hispan TV, dont le signal satellite a été coupé par arrêté ministériel.
La señal de satélite por una decisión del Consejo de Ministros, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a una escalada que nos recuerda a tiempos que pensábamos que estaban pasados ya.
Bueno, nous sommes dans une escalade qui nous rappelle les temps que nous croyons révolus. Je pense que considérer des médias publics russes comme RT ou Sputnik au même niveau que Daesh frôle l'illégalité, car cela revient à comparer des médias qui travaillent ouvertement avec une déontologie professionnelle, avec une ligne éditoriale marquée comme les autres médias, avec une organisation terroriste. C'est quelque chose qui est illégal et qui pourrait faire l'objet d'une plainte, car on ne peut pas comparer un moyen de communication légal avec ses travailleurs et avec sa ligne éditoriale, tout ça avec un groupe terroriste qui égorge et qui assassine et qui pose des bombes. C'est gravissime. Et je pense que la communauté des journalistes internationaux devrait réagir, car il faut défendre la liberté de la presse, sa diversité, aussi bien la Fox que Sputnik.
Por lo cual me parece que la comunidad periodística internacional debería protestar, porque yo creo que hay que defender la diversidad de medios, o sea, igual la Fox que Sputnik, ¿no?
Suivez les dernières actualités avec nous, sans parti pris. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.